sur Radio Esperanza. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Ziva prend le micro pour le troisième et dernier jour. Donc autour de la table on a
Elliot
et
Émilie.
Et alors on a une invitée, c'est
Tati Choco.
Donc Tati Choco, qu'est-ce que tu fais à Esperanza?
À Esperanza, je coordonne le village des enfants.
Mais qu'est-ce que tu fais pour le coordonner?
Eh bien, comme je connais tout le monde, je mets tout le monde en contact quand il faut, quand j'ai besoin de quelque chose. J'envoie un message avec le talkie et voilà, je coordonne les bénévoles entre eux, je coordonne la programmation avec Seb, je coordonne aussi les animations et les ateliers et les bénévoles.
Mais comment es-tu devenue coordinatrice du village enfant?
J'aurais bien souhaité une place pour aider Esperanza parce que j'aimais bien la philosophie. Et alors, j'ai eu l'occasion de rentrer il y a 8 ans. Et voilà, après 8 ans, le village a grandi. Et voilà aujourd'hui comment il est. Vous les avez vus?
Et est-ce que c'est compliqué de coordonner tout le village enfant?
Ce n'est pas compliqué parce qu'on attrape un roulement, mais ce qui est compliqué, c'est surtout tous les petits soucis. On termine d'en régler un, il y en a un autre. Voilà, c'est comme ça. Tous les petits soucis, et c'est vraiment pénible.
Mais vous avez déjà eu des problèmes trop gros pour devoir fermer le village enfant ou pas?
Jusque maintenant, non. Et grâce à Dieu, j'espère que ce ne sera jamais.
Mais par exemple, des problèmes, ce serait quoi comme problème?
Je ne sais pas, un accident, un enfant qui se blesse, mais vraiment très fort. Je pense surtout aux enfants, parce qu'au village des enfants, il n'y a pas que les enfants, il y a les adultes et on ne sait jamais. Au montage, on a eu un petit accident, mais c'était l'accident de trop.
Mais vous mettez combien de temps à monter le village enfant?
Pour monter le village enfant, cette année, on a fait du travail 2 mois avant, 2-3 mois avant. Mais pour le montage proprement dit, si on a tout le matériel sur place, on peut commencer à faire les différents bricolages. Lundi, mardi, mercredi, puis jeudi, c'est la dernière ligne droite. Tout doit être fait.
Mais est-ce que parfois vous prenez du retard?
Et oui, cette année on a pris du retard. C'est vrai que les festivaliers, ils ne voient pas tout ce qu'on avait fait comme travail en amont et que, faute de temps, on a dû élaguer. On a dû dire voilà, ça je fais, ça je fais pas. On a dû mettre des priorités.
Et pour combien de personnes le temps?
Je n'ai pas bien compris ta question.
En fait, vous nous avez dit que ça peut durer plusieurs mois, mais pour combien de personnes?
Pour combien de personnes? On est une équipe de... Allez, l'équipe déco, elle est une petite dizaine. Toute petite dizaine. Et c'est surtout ça qui prend du temps, c'est tous ces travaux de fabrication, de création, ça prend un temps énorme. En amont, ce que je fais aussi, c'est j'aime faire les brocantes et alors dans les brocantes, je trouve toujours quelque chose. J'ai Esperanza dans ma tête toute l'année.
Et c'est vous qui choisissez les jeux qu'il y a ou pas?
On est une équipe, hein, donc j'ai dit tantôt qu'il y avait l'équipe déco, puis il y a l'équipe qui est avec moi à la coordination. Et là, on en parle bien en amont et on alimente ça au fur et à mesure.
Mais qu'est-ce qu'il y a comme stand et comme chose au village enfant pour ceux qui n'y vont pas?
Pour ceux qui n'y vont pas, alors cette année, on a fait un immense labyrinthe central Et ce labyrinthe, il ouvre des voies, des passages vers les trois thèmes qu'on avait décidé cette année, c'est-à-dire le bois, le tissu et le papier. Et alors, suivant ça, y a des fanions de la couleur du thème qui aiguillonnent les festivaliers, les enfants, vers les différents ateliers.
Donc c'est pour ça que par moment, on a, au lieu d'avoir les palettes de bois, on a aussi des sortes de tôles vertes.
Exactement. C'est un matériel qu'on a vu qui était assez intéressant. Donc on s'est dit, avec la personne qui a coordonné le labyrinthe, on s'est dit on fera bien les vagues avec. Puis faute de temps, on n'a pas mis les vagues et c'est devenu une décoration sur toute sécurité par rapport au bois de la palette pour les enfants.
Mais les vagues n'ont pas été mises à l'entrée du labyrinthe ?
Il y avait des vagues. Normalement, il devait y avoir des vagues partout, des poissons. Mais faute de temps, on a fait ce qu'on a pu.
D'accord. Est-ce qu'il y avait quoi d'autre comme stand ?
Eh bien, dans le bois, on retrouve Arden Toys, qui sont là avec leur concept, qui est c'est une pièce de puzzle de 10 sur 10 à peu près en MDF, de couleurs différentes, qu'on emboîte les unes dans les autres, et on sait faire d'immenses constructions.
Et le labyrinthe, il a une forme de bateau, pourquoi ?
C'est Elodie, celle qui a conçu le labyrinthe, qui voulait avoir un bateau.
Donc, je pense qu'en marchant dans le festival, j'avais vu que certains enfants étaient maquillés. Il y a un stand de grimage ?
Il y a deux stands de grimage, comme tous les enfants veulent se faire maquiller. Eh bien, on a séparé dans deux endroits différents pour ne pas faire bouchon au niveau du village des enfants et que la circulation tourne bien.
C'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde là-bas.
Il y a énormément de monde. Ouais. Ils sont tous les bénévoles sont un petit peu à l'étroit dans leur tunnel. Et voilà.
Et il y a quoi comme spectacle dans le village des enfants ?
Dans le village des enfants, pour le moment, il y en a un qui est en cours. Et je ne sais... J'en retiens pas facilement les noms, donc je vais m'aider du programme, ainsi je serai sûre de ne pas dire de bêtises. Alors, au village des enfants, il y a la grande droguerie politique. Je ne sais pas si vous avez vu ce monsieur.
Oui, j'ai été voir, ça a l'air quand même d'être assez, comment dire, étrange.
C'est le moins qu'on puisse dire. C'est Dominique Mas, qui est un dessinateur pour livres d'enfants, qui adore parler, qui adore le français, qui adore les belles phrases, qui crée des fioles. Enfin, il a des fioles, mais il leur donne un nom.
Mais il donne quoi comme nom, par exemple ?
Il y a graines de tristesse, ou petit pois de joie, ou... Des noms, mais vraiment, il faut venir voir, quoi. Ça, c'est super, super chouette. Après ça, on a le manège à plumes, le petit carrousel de manège à plumes. Et ce qu'il fait aussi, il a des marionnettes du Rajasthan. Et alors, il fait un petit spectacle. D'ailleurs, c'est aujourd'hui, c'est entre 12h30 et 18h, voilà. Et puis alors maintenant, c'est le théâtre du Sursaut qui est en train de se produire. Et... ce soir, de 18h30 à 19h, la compagnie d'Hippocampe, c'est ce monsieur que je vous ai dit tantôt qui faisait les marionnettes du Rajasthan.
Mais c'est quoi les marionnettes du Rajasthan ?
C'est une partie de l'Inde. Enfin, je pense que c'est une partie de l'Inde. Hein. Et ils ont une... chez eux, c'est un sport national, quoi, là, le théâtre de marionnettes. Et il a ramené ces marionnettes-là et il les a un petit peu customisées, on va dire. Leur a donné une attitude très particulière. Il faut venir voir aussi, c'est particulier, mais je ne vais pas vous le dire, donc voilà.
D'accord.
La surprise.
J'ai entendu des bruits de jeux en bois, ça veut dire qu'il y a plusieurs époques de jeux au village enfant.
Il y a plusieurs époques de jeux. Il y a ce concept d'Arden Toys, et puis on a des jeux en bois, donc tous les jeux sur pied, les jeux sur table, voilà. Et au niveau du tissu, on a l'atelier Doudou.
Oui, hein, ça fabrique c'est, ses je doudous. Pense que c'est chaque année, il y a ça chaque année.
Et cette année, il y a l'atelier couronne en tissu. Ce sont toutes des fleurs en tissu qui ont été récupérées à gauche et à droite, qu'on a lavées, la machine à laver. Et elles en font soit des serre-têtes, soit des broches, soit des bracelets, des colliers. Et c'est l'atelier doudou et l'atelier... comment ? Je viens de le dire.
Et j'ai...
L'atelier couronne, oui, ont un succès fou.
J'ai une question. En cas de, par exemple, un enfant qui est malade et qui vomit en plein milieu du... Qui vomit en plein milieu du village enfant, qu'est-ce que vous faites ?
Eh bien, on a l'infirmerie, j'ai le numéro d'urgence. J'ai avec moi ici tous les numéros. J'ai le talkie, donc j'ai l'oreillette, j'ai le numéro auquel je dois téléphoner et ils viennent en urgence.
Et c'est qui a eu l'idée de faire le village enfant ?
Le village enfant, je crois qu'il existe depuis le tout début. Le tout début, ils ont bien vu qu'il y avait beaucoup de familles qui venaient avec leurs enfants. Donc, ils se sont dit qu'il faut faire quelque chose pour ces enfants. Et de fil en aiguille, voilà, c'est devenu le village des enfants.
Je vous propose une petite pause.
D'accord.
Eh bien, je vous propose un iPhone, Just Need Your Love.
Parce que 105.4, c'est panique. 192.1, c'est campus.
Donc 106.2, c'est radio
Esperanza
à Fleuref.
À Fleuref, ouais.
Donc nous sommes toujours là sur Radio Esperanza, donc on est toujours avec Tati Choco, donc pour parler du village enfant, donc là je vais essayer de passer une interview si j'arrive à la retrouver. Pendant ce temps-là, on a un nouvel invité, c'est
Robin Delobel, du CADTM.
Donc, qu'est-ce que vous allez présenter? Quelque chose, je pense?
En fait, je suis venu faire une annonce. Je mets le casque. Donc, le CADTM, on est le comité pour l'abolition des dettes illégitimes. On est un réseau international avec des groupes en Amérique du Sud, en Asie, en Afrique, en Europe. Et on a beaucoup travaillé ces dernières années sur la crise de la dette grecque, Mais donc, qui dit crise de la dette dit aussi crise sociale, crise économique, crise des réfugiés. Et on va faire la projection d'un film au Village des Possibles, au stand Kino, sur Aube Dorée, qui est le parti néo-nazi grec qui s'est développé ces dernières années. Et donc, le film explique, avec le contexte de la crise de la dette, crise économique et sociale, comment ce parti s'est implanté et comment leurs actions totalement dangereuses et violentes ont impacté les migrants d'Athènes et d'ailleurs en Grèce. Et je ne sais pas si je continue, Iñaki.
Oui, allez-y.
Ouais. On aura aussi la projection d'un film sur l'audit de la Grèce, qui a été fait en 2015. Donc le CADTM, on est pour l'annulation des dettes illégitimes, des dettes qui n'ont pas profité à la population. Il y a des dettes illégitimes dans les pays du Sud, mais aussi dans les pays du Nord, comme en Grèce, en Espagne, même en Belgique. Le sauvetage des banques, qui n'est même pas voté au Parlement et qui porte ensuite sur la population, c'est des dettes illégitimes. Donc on aura le film qui s'appelle L'Audit, l'enquête, qui a été fait par Maxime Couvaras de Zine TV. Et là aussi, ce film explique un peu le contexte, justement, avec l'arrivée au pouvoir de Syriza en janvier, le 25 janvier 2015, jusqu'à la capitulation d'Alexis Tsipras, qui est en juillet 2015, donc 6 mois qui ont été très, 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 très rapides, mais où énormément de choses se sont produites. On a le CADTM, on a organisé avec Zoé Constantopoulou, l'ex-présidente du Parlement grec, un audit de la dette grecque. Un audit, donc, c'est analyser les comptes, voir la dette d'où elle vient, à qui elle a profité, etc. Et justement, quand on a fait cet audit avec 30 experts internationaux, autant des juristes que des économistes, des politologues et des gens de la société civile, on voit que quasiment l'entièreté de cette dette est illégitime, donc comme je vous disais, qui n'a pas profité à la population, illégale, qui est contre le droit national et international, odieuse aussi, une dette qui est remboursée en priorité face aux besoins fondamentaux de la population, donc droit à la retraite, droit à la santé, etc. Et cette dette peut être répudiée, des textes de droit international le disent, une dette odieuse doit être annulée. Donc il y a des alternatives faisables, et tout ça on en parle dans ce film.
Mais à quelle heure ce sera?
Oui, ça sera a priori à 17h, il y aura peut-être un peu de marge, 17h15, 17h30, mais donc ça sera au stand Kino, Liège. Quand on rentre dans le village des possibles, c'est sur la droite. Et voilà, vous serez bien accueillis. La grange, je vois pas, c'est vraiment le village des possibles.
D'accord.
Il n'y a pas de grange, je pense, dans le village des possibles.
Non, c'est juste à côté.
Ouais.
D'accord.
Et merci alors, beaucoup. On aura peut-être, pardon, juste 30 secondes en plus, un apport de Mamadou Ba, qui est un militant du CADTM qui a été confronté à Aube Dorée en 2012-2013. Et qui est venu se réfugier en Belgique et donc il peut apporter un peu ses commentaires et son vécu par rapport à ça.
Eh bien, merci beaucoup.
De rien, avec plaisir.
Donc là maintenant, j'ai eu un petit problème avec l'interview, je sais pas où elle est passée, donc je vais l'expliquer comme ça. Donc il y avait des personnes qui se demandaient, mais le village... le labyrinthe, Qui a trouvé l'idée du labyrinthe?
C'est entre nous, je pense. C'est entre nous qu'on s'est retrouvés et on s'est dit ce serait bien de faire quelque chose là dans ce coin, là où il était avant, et pour masquer ce coin qui était assez tristouné. Donc on a fait ce labyrinthe qui, cette année, est devenu labyrinthe central.
Mais pourquoi est-ce qu'il n'est plus au même endroit que l'année passée?
Parce que justement, on le voulait central, pour pouvoir faire partir les différents chemins vers les différents thèmes.
D'accord. Mais les thèmes, comment les trouvez-vous?
Comment?
Comment trouvez-vous les thèmes?
Les thèmes, en général, on respecte le thème général de SP, qui nous botte bien. Donc, à partir de là, on fait aller notre créativité, notre pensée vers plein de choses.
Mais quel est le lien entre des ponts contre leurs murs et bois, papier et tissu?
Tout... comment? Dans les jeux en bois, ce sont des jeux de construction. Donc, on construit des ponts.
Oui.
Dans le tissu, on fait des bijoux africains, des bijoux des pays du monde. Les doudous, pareil. Elles font des doudous de tous les pays du monde. Donc, elles créent des ponts. Avec le t-shirt aussi, on crée des ponts. Avec le t-shirt Esperanza, elles font plein de découpes, qui créent aussi des ponts. Et alors, nous avons le CNCD 11-11-11 qui vient justement pour nous expliquer, de façon ludique, pour expliquer aux enfants quel est, toi, ton parcours quand tu vas en vacances, et l'autre qui vient, qui est obligé de venir, son parcours à lui.
D'accord.
Et expliquer ça de façon assez ludique, expliquer aux enfants ce qu'est un parcours de migrant.
Eh bien, merci Anne.
Merci à toi, Iñaki.
Et nous allons passer à une deuxième étape de l'interview avec une autre invitée, c'est...
Caroline.
Mais que fais-tu?
Alors moi, je travaille dans un centre pour SDF, un centre famille à Bruxelles, un centre du SAMU social.
Donc, vous occupez des sans-papiers et des SDF?
Alors, il ne faut pas confondre SDF et sans-papiers, c'est-à-dire que j'ai écouté votre émission hier.
Désolée,
et il y avait quelqu'un qui expliquait très bien la différence entre migrants, sans-papiers, demandeurs d'asile, réfugiés. Donc, je m'installe mieux, je prends la place de Tati Choco. On dit au revoir à Tati Choco.
Au revoir.
Qui a plein de boulot qui part. Donc, les SDF, ça veut dire sans domicile fixe.
Oui.
Ça veut dire que c'est des gens qui n'ont pas de logement avec une adresse légale en Belgique.
D'accord.
Donc, des gens qui sont dans cette situation, il y a plusieurs raisons. Il y a des gens qui n'ont pas l'argent pour se payer un logement. Il y a des gens qui sont sans papier. Et comme vous avez entendu hier, n'ont pas accès à... Comme ils n'ont pas de papier, les proprios ont du mal à leur louer quelque chose, à leur faire confiance par rapport à leurs revenus. Il y a des illégaux aussi, donc sans papier illégaux.
Ça veut dire ?
Donc, qui sont sans papier, donc ils sont censés pas être sur le territoire.
D'accord.
C'est-à-dire, par exemple, tu as un migrant qui vient ici, qui est demandeur d'asile. Il a toute une période de demande d'asile où il va être logé et nourri dans des centres. En général, dans des centres, il y a des exceptions. Ensuite de ça, le gouvernement, l'État décide si oui ou non il a droit au statut de réfugié. Et s'il n'a pas droit au statut de réfugié, ou bien... on le met dans un centre fermé, on le fout dehors, ou bien lui-même, il disparaît dans la nature, et en fait, il peut éventuellement passer dans le circuit des gens qui sont en Belgique et s'ils sont les illégaux.
D'accord, donc d'un moyen ou d'un autre, soit il est enfermé, soit il est libre, non, soit il doit partir, soit il fait celui qui n'a rien entendu et il essaie quand même.
Voilà, il essaie quand même, mais il n'a pas droit à travailler, il n'a pas de sécurité sociale... comme on vous a expliqué hier, donc il a aucun droit, donc c'est complètement une vie alternative très compliquée pour s'en sortir, tu vois.
Et maintenant c'est encore plus compliqué à cause de Théo Franken.
Oui, ça a toujours été compliqué, vu les gens qu'on a au pouvoir. Mais voilà, il y a quand même des gens qui se battent, des associations, comme il y a beaucoup sur Esperanza, qui essayent de défendre les droits des personnes qui n'ont pas droit au même droit que nous, quoi. Nous, les privilégiés, ici, qui ne se rendons pas du tout compte de ce qu'on a. Tu vois ? Et moi, je travaille dans un centre où, justement, il y a des enfants. Donc, c'est un centre famille où on accueille que les personnes qui ont des enfants. Donc, c'est souvent des mères seules. Par exemple, des femmes qui ont été maltraitées, qui ont été... qui se sont enfuies de chez leur mari, ou des femmes qui ont eu des problèmes économiques, qui se sont retrouvées à la rue avec leurs enfants. Et donc, on accueille la famille entière avec les enfants. Des enfants, il y a même des bébés qui naissent dans notre centre. Voilà.
D'accord.
Et de quel pays viennent le plus souvent les SDF et tout ça ?
Alors, je n'ai pas les chiffres généraux, mais dans le centre où je travaille, il y a des gens qui viennent de tous les pays. Donc, ce n'est pas du tout que des migrants. Il y a aussi des Belges, Bruxellois qui sont là et qui n'ont pas de revenus, pas de travail, rien du tout. Il faut aider. Et il y a aussi des populations qui sont migrantes, qui viennent d'Afrique, qui viennent du Moyen-Orient, de partout. Voilà, de partout où c'est compliqué, où ils ont dû bouger.
Ok.
Mais comment faites-vous si, par exemple, vous arrivez, il y a une famille qui arrive et qui a des enfants qui sont malades? Comment vous faites?
Alors moi, comme je t'ai dit, je suis infirmière dans ce centre et donc c'est moi qui m'occupe de la santé de tout le centre. Et donc en fait, je m'occupe de les aider, on leur offre les premiers soins, j'essaye de voir avec eux quels sont les accès aux soins aussi. Donc les vaccinations par exemple. Ici en Belgique, on se rend pas compte, on se fait vacciner comme ça, tout est logique. Mais oui. Chez eux, ils ont peut-être eu un parcours qui ont fait qu'ils n'ont pas eu ça. Donc en Belgique, il y a quand même certaines structures qui aident les enfants, entre autres une structure qui s'appelle l'ONE, qui est l'Office National de l'Enfance, où on peut être suivi par un médecin gratuitement jusqu'à l'âge de 6 ans et avoir les vaccinations gratuites. Donc je les dirige par là, tu vois.
Oui.
Et puis on est aidé par une équipe d'assistantes sociales qui, eux, essayent de redonner accès aux droits à toutes ces familles, entre autres grâce au CPAS, qui va aider des familles pour avoir un revenu minimal, pour avoir accès gratuit aux soins, pour avoir des accès à certains médicaments. Voilà, on essaie de les aider comme ça. Et l'objectif est quand même qu'ils retrouvent un logement. Hein. On les héberge pas là pour toujours. L'objectif, c'est qu'on les héberge là pendant quelques mois, le temps de remonter leur situation économique et sociale pour qu'ils puissent retrouver un logement.
Et c'est quoi le CPAS ?
Alors ça, c'est très très bonne question, je ne connais pas les initiales. Mais donc c'est un centre, c'est un organisme qui aide les personnes qui n'ont plus droit à aucun revenu. Donc même pas le chômage, tu vois ? Et qui vont aider, suivant certaines conditions, certaines personnes, donc pas tout le monde, mais et qui vont donner une somme d'argent pour aider à vivre vraiment au minimum de ce que tu peux... de tes besoins.
Donc si c'était supprimé, ça serait très dommage.
Ah, si le CPAS était supprimé, ça serait vraiment une catastrophe pour énormément de gens qui sont démunis en Belgique. Et là, on ne parle pas du tout que des migrants. Il y a énormément de familles dans des situations précaires qui ont quand même des logements, qui ont un boulot, mais qui ont des vraies difficultés financières très, très difficiles. Et donc le CPAS aide beaucoup, beaucoup de gens. Il y a énormément d'assistantes sociales qui aident les gens à essayer de trouver des solutions et qui donnent parfois de l'argent ou qui prêtent de l'argent.
Et il y a environ combien d'infirmières et d'infirmiers comme toi, là où tu travailles ?
Là où je travaille, je suis toute seule.
Ah.
Voilà, donc il y a environ, je ne connais plus les chiffres exacts, mais on a environ 150 personnes, dont 90 enfants. Et c'est des enfants, donc je parle enfants de 0 à 18 ans, mais il y a la plupart des enfants, c'est des 0 à 6 ans. Donc beaucoup de petits-enfants. Et ce qui est très beau à voir, c'est que c'est des enfants de toutes les nationalités. Et eux, ils ne voient pas où sont les frontières. Ouais. Eux, ils s'amusent ensemble, même s'ils ne parlent pas la même langue, même s'ils ont des âges différents, des couleurs différentes. Eux, ils ne voient pas où est le problème. Et c'est très, très beau à voir. C'est comme une grande famille. Et moi, c'est un endroit où je me sens très bien.
Mais si, d'un coup, imaginons, il y a une épidémie de grippe qui se déclare à un enfant, puis de fil en aiguille, tout le monde est contaminé. Comment tu vas faire si t'es toute seule?
Ah ben, tu vois, ça c'est une question de moyens, hein. C'est comme pour toujours. Partout, on te donne pas spécialement les moyens dont tu as besoin pour aider les gens qui vont pas rapporter de l'argent à la société. Tu vois, ils vont se dire on va faire le minimum quand même, hein. On va leur mettre une infirmière, ce qui est déjà bien, tu vois. Alors du coup, j'essaye de faire avec les moyens que j'ai. C'est-à-dire que il y a certains médicaments que je peux donner, il y a d'autres, j'essaye de faire de l'éducation à la santé pour quand tu as la grippe, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça se propage pas? Il faut se laver les mains. Sortir couvert avec un pull. Ne pas aller à l'école quand t'as la grippe, parce que sinon tu vas le transmettre à l'école. La grippe, c'est pas les épidémies les plus courantes, mais il y a par exemple les poux ou des épidémies comme ça, la varicelle par exemple.
Ah, la varicelle, ça peut être une épidémie.
Ah oui, parce que c'est très contagieux la varicelle. C'est pas une maladie très grave en soi, rarement grave, rarement avec des complications. C'est des boutons, ça gratte, c'est très embêtant, mais c'est très 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 contagieux. Et donc, effectivement, dans un centre comme ça, quand tu as un enfant qui a une varicelle, une semaine après, tu as 15-20 enfants qui ont une varicelle. Donc, il faut isoler les enfants dans les chambres, les faire manger dans la chambre plutôt que dans l'endroit où tout le monde mange. Il faut leur donner les produits pour ça, il faut les informer. C'est assez compliqué.
D'accord.
Donc, ils ont tous cours à l'école ou non?
Alors, dans le centre où je travaille, il y a une obligation pour les familles de scolariser les enfants qui sont en âge de scolarisation. C'est-à-dire, à partir de 6 ans, tu es censé être en obligation scolaire. C'est-à-dire que tous les enfants qui sont là et qui logent là pendant les quelques mois où on va aider les familles, ils sont obligés d'aller à l'école. Et donc, on leur trouve une école, mais parfois, ils arrivent en plein milieu d'année. Et hop, on leur trouve une école. On a des partenariats avec des écoles qui sont hyper compréhensifs, parce que parfois, il y a des gens qui ne parlent même pas le français ou le néerlandais, tu vois. Et donc, oui, normalement, tous les enfants de plus de 6 ans sont scolarisés.
Mais comment font-ils pour être scolarisés si les parents n'ont parfois pas l'argent pour les scolariser?
Alors, l'enseignement en Belgique, il est gratuit, normalement, jusqu'à 18 ans. Donc, effectivement, il y a quand même certains trucs qu'il faut payer. Mais ici, dans ce cas-ci, le SAMU social aide un petit peu pour trouver des cahiers, des bics. Il y a d'autres associations, il y a un tas d'associations qui travaillent pour aider les gens qui sont dans le besoin. Et tu peux trouver des gens qui sont spécialisés dans les dons de matériel de puériculture, par exemple. Tu vois, il y a des mamans qui ont besoin d'avoir un berceau, d'avoir une poussette. Le SAMU social aussi travaille avec la STIB pour donner des tickets, des abonnements. Tu vois, ils doivent payer pour ça, hein, mais donc on leur offre de quoi pouvoir aller à l'école. Des vêtements, c'est tout plein de structures autour qui sont mises ensemble afin d'essayer qu'ils aient une scolarité normale. Ils peuvent même se faire des tartines, tu vois, dans le centre pour pouvoir aller à l'école avec leurs tartines.
Et si, par exemple, il y a des personnes qui sont malades et que tu n'es pas là, comment vous faites?
Alors, c'est compliqué parce que... Mais en même temps, tu vois, après, quand nous, on n'est pas là, ils doivent se débrouiller tout seuls.
Oui.
C'est sûr, hein. Donc, du coup, moi, je mets des petites astuces. J'ai mis devant mon infirmerie, j'ai mis une affiche avec le numéro de téléphone du centre médical où ils peuvent téléphoner pour avoir un rendez-vous. On a fait des accords avec ce centre médical pour que ça ne soit pas payant pour eux, tu vois.
Oui.
Et donc, du coup, ils savent qu'ils peuvent aller là-bas et que si leurs papiers sont suffisamment en ordre grâce aux assistantes sociales qui sont dans le centre, ils peuvent aller et ne pas payer la consultation médicale. Et donc, si c'est grave, ils peuvent aller là. Sinon, si c'est encore plus grave, ils peuvent aller aux urgences. Mmh. Donc, tout l'ensemble de l'équipe des gens qui travaillent dans ce centre au SAMU social sont tous extrêmement polyvalents. Donc, il y a des gens qui sont des animateurs, il y a des gens qui sont des assistantes sociales, il y a des gens qui sont qui gardent à la porte, il y a un cuisinier, il y a des gens qui nettoient, vraiment c'est comme une grande maison avec une grande vie, avec plein de familles, de plein d'origines différentes, et l'équipe, elle est comme dans beaucoup de métiers de l'humanitaire, elle est complètement multipotentielle. Ça veut dire que en fait on fait un peu tous de tout et on est capable de prendre un peu de la part du boulot des autres. Donc quand je ne suis pas là, mes collègues, ils essayent de faire de leur mieux pour aider les gens Voilà. Mais bon, j'ai une trousse, d'urgence que je remets en ordre une fois par semaine pour avoir vraiment tout ce qu'il faut pour si jamais ils sont blessés ou voilà. Okay. On essaie de s'arranger, hein, avec les moyens qu'on a. C'est comme ça.
Et apparemment, il y a eu le chef du SAMU social ou quelque chose ou quelqu'un d'important qui volait de l'argent.
Oui, effectivement, il y a eu un scandale au SAMU social depuis juin passé qui a porté très gros préjudice à tous les travailleurs du SAMU social et donc aussi aux SDF, donc aux sans-abri qu'on aide, parce que la population s'est dit « Oh là là, le SAMU social, c'est des voleurs ». Ils ont, voilà, les gens du SAMU social, ils ont volé l'argent qu'on leur a donné.
Mais c'est pas le cas.
Alors si, il y a effectivement des gens qui ont volé de l'argent qu'on leur a donné. Sauf que c'est pas les gens qui travaillent au quotidien auprès des SDF, c'est les gens qui sont plus à la direction, si tu veux. Donc tout ça, c'est pour l'instant, ça passe en justice, on va en savoir plus. Nous, on sait pas trop. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est compliqué pour nous de travailler comme ça, dans ces conditions, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent maintenant du mal d'un organisme où il y a beaucoup de gens qui travaillent avec leur cœur et qui ont vraiment envie d'aider, tu vois. Donc il s'est passé quelque chose, moi je n'ai pas de preuve de rien, c'est la justice qui va décider, tu vois. Mais ce qui se passe, c'est qu'effectivement, du coup, on a une mauvaise presse, on appelle ça. On a une mauvaise image auprès du public, et donc tous les gens qui donnaient de l'argent au SAMU social pour aider les SDF, eh ben, il y a beaucoup de gens qui ne donnent plus d'argent parce qu'ils n'ont plus confiance en ce qu'on va faire avec leur argent. Ils n'ont plus confiance qu'on va aider les SDF. Et donc, on a moins d'argent. Et donc, ça devient très compliqué. C'est dommage, hein ? Tout ça pour des gens... Ouais.
Donc, toi aussi, tu as été suspectée ou pas ?
Non, moi, je n'ai pas été suspectée. Parce que moi, je n'ai rien fait de mal, tu vois.
Est-ce que quelqu'un a encore une question ?
Non.
Non.
Eh bien alors, pour presque finir ce Ziva, je vous propose une chanson que je vous avais déjà proposée vendredi, c'est Thematician avec Toketer, un truc dans le genre. Donc, merci à
Émilie
et à
Elliot.
Et surtout, merci à
Caroline.
Est-ce que quelqu'un a encore une remarque à faire ?
Alors, moi, je voulais vous remercier déjà de m'avoir invitée, parce que c'est toujours chouette de parler avec des enfants qui sont dans d'autres situations. Et même, ce serait génial de pouvoir faire rencontrer même tous ces enfants de tous les endroits et de tous les milieux, parce que c'est trop beau ça. Et donc, je voulais vous dire que par rapport à tout ça, moi j'ai écouté vos émissions les trois jours et que je trouve que votre émission elle est géniale parce que ça parle à un autre public, ça parle de quelqu'un d'autre, c'est vous êtes les futurs activistes de demain, vous êtes en train d'ouvrir votre esprit à toutes des problématiques de société et vraiment, continuez comme ça les gars, vraiment vous assurez.
Merci.
Beaucoup.
Merci. Et donc, maintenant, nous allons passer à la dernière étape de cette dernière émission de Ziva prend le mic. C'est sans aucun doute et pendant ce temps-là.
Et pendant ce temps-là,
alors que Trump s'en fout du réchauffement climatique, ici à Esperanza, nous on trie nos déchets.
Et pendant ce temps-là,
alors que le SAMU social donne des sous aux riches, nous à Esperanza, on accueille les réfugiés. Et encore un grand merci à
Émilie
et à
Elliot.
Et rendez-vous pour un nouveau pour de nouvelles émissions de Ziva prend le mic.
On l'espère l'année prochaine.
Et à bientôt. Et on va se quitter avec un Claude Capéo. Je vous embrasse fort, qu'on a déjà écouté hier, mais c'est pas grave.